Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Le premier verset qu'on va regarder ce matin, ça va être dans Luc, chapitre, je pense que c'est Luc 21. Ouais. OK, bienvenue à ceux que je n'ai pas salués encore, et bonne fête à Princesse Kayla, qui a 21 ans aujourd'hui. Donc, Seigneur, merci pour ce temps qu'on a pour ouvrir ta parole, Seigneur, et je prie que ce soit un message qui vient nous affermir, qui vient aussi nous exciter, Seigneur Dieu, pour ton deuxième retour, Seigneur. Ce jour, Seigneur, où les choses vont rentrer dans l'ordre parce que tu vas régner sur la terre. Et d'ici là, Seigneur, il n'y a rien de totalement garanti, Seigneur. On est dans un monde qui est en ébullition, Seigneur. Et on a besoin, Seigneur, d'apprendre à persévérer, pas s'endormir avec le reste du monde, mais rester bien vivant et alerte et prêt, Seigneur Dieu, pour ton deuxième retour. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je suis dans une série sur la sécurité éternelle. Et je trouve qu'un des passages qui illustre le mieux la sécurité que le croyant a en Jésus-Christ, c'est le verset de Jean 5, verset 24, un de mes préférés. Prochaine acétate. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La semaine passée, on a commencé à faire des mathématiques avec des lettres. Vous rappelez-vous de ça? C'est-tu correct? Peux-tu continuer? OK, parce qu'il y en a qui n'aimaient pas les mathématiques, ils aimaient le français, fait que j'ai fait un mix des deux. Fait que, dans le fond, le E ici, le C, puis le V pour la vie éternelle, puis le J. Donc, celui qui écoute la parole de Dieu et qui croit à celui qui a envoyé Christ le Père, Dieu le Père. Ça ici, c'est un nouveau signe. Je ne sais pas si on en a parlé la semaine passée, mais ça veut dire que ça l'implique nécessairement. Si ça, c'est vrai, celui qui écoute et qui croit, si cela est vrai, cela est nécessairement vrai. C'est ça que ça veut dire. Si ça, c'est vrai, ici, donc celui qui écoute et qui croit, ça l'implique nécessairement V, c'est-à-dire qu'il a la vie éternelle et non-J, non-jugement, ne vient point en jugement. Celui qui écoute la parole et qui croit implique nécessairement, la personne-là, elle c'est sûr, ça implique qu'elle a la vie éternelle et qu'elle ne vient point en jugement. OK. Un des passages, donc, dans cette équation-là, c'est tellement clair que si tu as écouté les paroles de Jésus-Christ, que tu as cru en celui qui l'avait envoyé, ça, en passant, quand ça a été dit, Jésus n'était pas encore mort, fait que Jésus ne pouvait pas dire que je viens mourir pour vous et que je vais ressusciter pour vous. Mais depuis que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, le croyant ne doit pas seulement croire que Jésus est le Messie qui a été envoyé par Dieu, mais qu'il est celui qui est mort et ressuscité pour lui aussi. Donc, ça s'est ajouté. Le contenu de ce qui devait être cru pour être sauvé a été augmenté. Donc, ici, on devrait croire pas juste les paroles qu'il a dites, mais aussi son sacrifice et sa résurrection. Ça s'ajouterait à l'équation, si on pourrait dire. Okay? Mais il y a des versets que Jésus-Christ lui-même a dit à trois endroits, et on va les regarder. C'est « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Jésus dit ça dans Luc 21, dans Marc chapitre 13, puis il l'a dit aussi dans Matthieu au chapitre 24. Alors, ce que je me propose de faire avec vous, c'est de regarder ces passages-là. D'abord, ces paroles-là ont été dites dans le même sermon. Ces trois versets-là, c'est le même message. On appelle le message le sermon sur le mont des Oliviers. C'est le dernier message que Jésus-Christ fait avant de se faire crucifier. C'est le dernier message qu'il fait. Il vient de sortir du temple, puis il y a une femme qui a donné, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire, elle a donné un petit peu d'argent dans le tronc, puis les autres, ils font sonner de la trompette pour faire une grosse offrande, puis tout ça. Puis là, il sort du temple, puis là, les disciples sont là, puis ils regardent les murs, puis il y en a un des disciples qui dit, « Jésus, as-tu vu les grandes pierres de construction? Comment il est beau, là, ce temple-là? » Et puis Jésus va dire, « Il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple-là qui ne sera pas renversé. » Et là, ça va piquer la curiosité des disciples. Et là, les disciples vont poser la question, « Quel sera, Seigneur, le signe que ces choses-là vont arriver? » Parce que là, Jésus prophétise. Il fait son ministère de prophète, il annonce des choses qui vont arriver. Et là, les disciples disent, « Y a-t-il moyen de savoir quand est-ce que ça va arriver? Tu sais, on peut-tu avoir des signes un petit peu? » Et dans les trois passages, il y a cette question-là au départ, c'est quoi le signe de la fin, ou en tout cas que ça va commencer à aller mal, là, puis que les pierres de ce temple-là vont être renversées? Et Jésus va répondre, autant pour les pierres qui vont être renversées, mais Jésus va utiliser la question qui lui est posée pour amener les croyants à se questionner sur la fin, à vivre à la lumière qu'un jour il va arriver une fin, qu'il va y avoir une fin du monde. Et Jésus va aller bien plus que de dire que les pierres vont être renversées, quand est-ce que ça va se passer? Il va aller parler des dernières années, soit la grande tribulation, les dernières années qui vont se passer avant que Jésus finalement vienne régner, établir l'ordre, puis régner sur la terre. Les versets sont les suivants, prochain acétat. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, dans Matthieu 24, 13, dans Marc 13, 13, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Luc 21, verset 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ces passages-là paraissent dire que je dois persévérer jusqu'à la fin, sinon, qu'est-ce qui va arriver avec mon âme? Et donc, on dirait qu'il y a, ben, il y a cette équation-là. Si je persévère et je me rends jusqu'à la fin, ça implique nécessairement que je vais être sauvé. Donc, dois-je endurer jusqu'à ce que je meure si je veux être sauvé? On dirait que c'est ça que le passage nous dit. Mais lorsqu'on l'étudie plus proche un petit peu, puis on regarde les trois passages où ce que c'est écrit, le sermon des Oliviers, eh bien, on va regarder la période d'abord à laquelle ça fait référence, puis la fin, c'est-tu la fin de ma vie ou c'est la fin du monde? Si c'est la fin du monde, bien, les disciples sont tous morts avant la fin du monde. On va essayer de parler de ça. Puis la majorité des... Si c'est la fin du monde, bien, la majorité des disciples sont morts, martyrs, sont morts d'abord, avant que la fin du monde arrive. Puis, en tout cas, on va jongler un petit peu avec ça, puis on va regarder d'abord la période. Prochaine acétate. Donc, c'est sûr que Jésus, lorsqu'il s'adresse à eux, il va parler de leur vie à eux, de que des choses qui vont se passer de leur temps à eux. Il va leur raconter un événement qui va se passer en l'an 70, mais il ne dit pas le nom, il ne dit pas la date que ça va se passer. On est en l'an 30, puis il va se passer quelque chose durant leur période de leur vie en l'an 70, Jésus va en parler. Il va aussi parler de la période de l'Église, et sur la chaîne du temps, il va parler aussi de quelque chose qui s'est passé dans notre siècle, qui est le commencement de la fin du monde. Puis ensuite, il va parler de la grande tribulation, les 7 années de tribulation sur la terre. Puis, il va aussi introduire tranquillement le fait qu'il va revenir. Donc, dans ce passage-là, en comprenant ça, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire persévérer jusqu'à la fin du monde. Ici, on aurait dû lire en haut de l'acétate, Luc, chapitre 21. Et on va suivre verset par verset et on va regarder les trois passages presque verset par verset. Donc, je vais vous encourager à tourner dans Luc 21 si vous n'y êtes pas, parce qu'il paraîtra pas. Ouais, c'est une erreur, là. C'est Luc 21 qu'on devrait lire. OK, donc on va lire dans Luc, chapitre 21. Et on peut lire le verset 7 qui justement
Ben, regarde le verset 6. Ah, ben non, on va plus aller au verset 5. Ça va résumer ce que j'ai dit tantôt. Ah, verset 4, c'est intéressant. Tiens, commençons donc au début du chapitre. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. C'est eux, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis de leur offrande dans le tronc, mais elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Et là, au verset 5, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où ce que vous voyez, il ne restera plus pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? » Quand? J'attire votre attention. Quand est-ce que cela va arriver? C'est important parce que si Jésus parle d'une notion de temps durant le temps de son discours, ça va être important de se référer à la question à laquelle il répond. Quand est-ce que ces choses-là vont arriver? Quel signe reconnaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Et Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs... Car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi » et le temps est approche. Ne les suivez pas. Donc, il y a des gens qui vont se prendre pour des messies puis ils vont dire le temps de la fin ou le temps est proche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la période de l'Église qui est englobée dans ça. Pas juste leur vie, mais il va y avoir des signes, il va y avoir des tremblements de terre, et il va y avoir des guerres à tel point que ce ne sera pas un pays contre un autre, mais ça va être une guerre qu'on va appeler une guerre mondiale. Une guerre où c'est des royaumes contre des royaumes. Et en 1914, première guerre mondiale. OK? Et donc, et augmentation des tremblements de terre. Là. Dans le dernier siècle, on a vu une augmentation phénoménale du nombre de tremblements de terre. Donc, quand ces choses-là commencent à apparaître, le texte nous dit ici, il dit, il y aura de grands tremblements de terre. OK, juste un petit peu avant, il dit, ce ne sera pas encore la fin. Et j'ai fait une flèche vers la gauche. J'ai fait une flèche vers la gauche parce qu'il va mettre plus l'emphase sur ce qui va se passer durant leur vie, puis durant la période de l'Église, puis il va dire ça, ce ne sera pas encore la fin. Tandis que dans d'autres textes, on va voir, ça sera juste le commencement des douleurs, puis là, il va expliquer ce qui se passe après. Donc, on va continuer à lire. Mais avant tout cela, regardez le verset 12. Mais avant tout cela, c'est pour ça que ma flèche pointe vers la gauche. Quand il va commencer à avoir une guerre, des guerres au niveau international, puis il y a une augmentation des tremblements de terre et catastrophes naturelles, avant tout cela. Donc, Luc nous dit, « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. » Et c'est ça qui est arrivé. André serait mort crucifié sur une croix en X, Pierre à l'envers, Jacques, je pense, décapité, je ne suis pas sûr, c'était en l'an 44. Donc, verset 13, « Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront pas leur résister ou les contredire. » On continue. « Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches, vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Hein? Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, je continue. Ça, c'est notre verset ici. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Jérusalem entourée
d'une armée. Donc, Jésus ici n'est pas en train de nous parler de cette période-là, il nous parle plutôt de cette période-là ici, l'an 70. Et il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, eh bien, sachez que sa désolation est proche. La fin de cette ville-là est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Et là, toujours en parlant de l'an 70, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont au tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, c'est certain qui parle de quelque chose qui se passe ici, mais il dit « Jérusalem va être foulée au pied des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Et là, ça parle bien plus que de eux puis de leur petite vie. Ça parle qu'il y en a qui vont échapper à ce jugement-là parce qu'ils vont se pousser quand ils vont voir qu'il y a des armées qui commencent à s'en venir autour de Jérusalem. Imaginez que vous êtes en l'an 70, là, que vous voyez commencer à approcher, c'est en 67 hein, qu'ils ont commencé à s'approcher, ils ont essayé de, les Romains ont essayé de la capturer, ça a duré 3 ans, ça n'a pas fonctionné, il y a eu une rébellion du peuple juif, ils ont couru après eux autres, puis finalement, un petit peu plus tard, en l'an 70, les Romains sont revenus, puis là, ils ont fait la chose. Mais quand tu voyais l'armée commencer, imagine que tu avais ces textes-là ou qu'on te les avait transmis. Quand vous verrez une armée, si tu pousse, tu vas être sauvé de ce jugement-là. Et là, il avertissait ici d'abord que les pierres sur pierres seraient renversées, parce qu'ils ont posé la question, quand est-ce qu'on va voir des signes que ces pierres-là vont être renversées? Et là, Jésus dit, si tu commences à voir des armées campées tout le tour de Jérusalem, pousse-toi, puis prie que ça n'arrive pas en hiver, puis que malheur à les femmes qui sont enceintes durant cette période-là. Mais il dit, ensuite, il commence à dire, mais Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, oups, jusqu'à, pas tout de suite Jésus, attends une minute là. il va être foulé au pied jusqu'à ici, qui est la fin de la tribulation. Donc, ça c'est intéressant. Laisse-moi juste revenir. C'était quoi le verset? J'étais rendu où? Ah, c'est ça, le temps des nations soit accompli. Pourquoi on dit le temps des nations? Bien, présentement, c'est le temps des nations, c'est-à-dire que ce n'est pas encore le temps de Christ. Ce n'est pas encore le temps où c'est des croyants qui règnent sur le monde. C'est encore le temps des nations, donc des gens non-croyants qui règnent sur les nations. Et Jésus-Christ va revenir, régner, et là va être le temps de Christ, OK? Où Jésus-Christ va revenir. OK, donc je suis rendu au verset 24. Là, le verset 25 nous décrit la grande tribulation, donc, on va rester un petit peu dans la grande tribulation. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Quand l'eau est utilisée au sens figuré dans la Bible, ça parle de quoi? Hein? Un jugement, oui. Quand on parle d'une mer, la mer, les peuples, les nations, exactement. Donc ici, au bruit de la mer et de ses flots, c'est une invasion armée. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et avec une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, et levez la tête pour que votre délivrance approche. Mais les disciples, ça fait longtemps qu'ils sont morts. Et pourtant, il leur avait dit, si vous persévérez, tu sais, jusqu'à la fin. Okay? Donc, son message est beaucoup plus large que la vie des apôtres. Il touche et la période de l'Église, et principalement la période de la grande tribulation. Okay? Et quand ces choses commenceront à arriver, il y en a qui vont vivre juste pour voir ça ici. Il y en a d'autres, comme nous autres, peut-être un petit peu plus. Nous, on a vu ça, là. On ne l'a peut-être pas vu, on n'était pas nés,
Mais là, on le sait qu'il y a eu une guerre mondiale durant notre siècle. Puis, on est à la veille, c'est 2016 ans ou plus, après que ces choses-là ont été dites, mais on est à la veille de voir cette période-là s'approcher. OK? L'Église va être enlevée ici, là, avant les 7 années de la tribulation. Mais il y en a qui vont avoir votre Bible. Ils vont avoir une Bible des Gédéons qu'ils ont trouvée dans un hôtel où ils vont aller voir votre Bible. Puis ils vont commencer à voir, et ça va être vraiment important pour eux qu'ils comprennent ce qui est en train d'arriver pour passer au travers de la période des 7 années de tribulation. OK? Ensuite, le verset 28, quand ces événements, les événements de la grande tribulation. Et là, au verset, donc la fin à laquelle Jésus réfère, lorsqu'il parle de la fin, c'est sûr que c'est la fin de la grande tribulation. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est de cette période-là ici que ça parle. Donc, il y a plusieurs indicateurs ici. Il y a l'indication, bon, premièrement, ça ne ira pas bien. Il y en a qui vont être livrés par leur propre famille. Là, ils expliquent ce qui va se passer. Ces choses-là vont arriver. Qu'est-ce qui va arriver aussi? Il va arriver la destruction de Jérusalem. Les pierres sur pierres vont être renversées. N'oubliez pas que pour Paul, Pierre, la fin du monde, c'était n'importe quand. Autant vrai que c'était vrai que la fin pourrait arriver de la vie de l'apôtre Paul ou Pierre ou Jacques ou André qui a posé la question, aussi vrai elle peut arriver durant le temps de notre vie. Dans ces passages-là, Jésus dit, je pense que c'est dans Matthieu 24, il dit que Jésus va revenir comme un voleur. Si le propriétaire de la maison savait à quelle heure le voleur était pour percer, est-ce qu'il dormirait ou il l'attendrait? Il l'attendrait en temps. Bon, bien, la même affaire, nous, on ne sait pas quelle heure ni quel jour que Jésus va revenir, mais il veut qu'on soit toujours prêt pour le recevoir, puis pour son règne. Hein? Il veut que tous les hommes soient prêts à son retour. Donc, ça parle vraiment de ceux qui vont passer au travers de cette période-là, puis on va continuer avec les autres passages qui vont nous donner plus de lumière là-dessus. Regardons dans la conclusion de Luc 21 et non Luc 23. Donc, Luc dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes. Pourquoi redressez-vous? Bien, probablement que les chrétiens sont courbés. Les chrétiens sont courbés probablement parce que ça n'a pas été facile, parce qu'ils ont dû passer l'opprobre, la persécution. C'est des périodes d'intense persécution. De relever leur tête puis d'attendre des cieux. Relever votre tête, c'est d'attendre des cieux celui qui vient nous sauver. Hein? Et là, Jésus va prendre la parabole du figuier qu'il va aussi citer dans les autres, cité par les autres évangélistes. Et il va dire, quand vous voyez un figuier puis qui commence à bourgeonner, vous savez que l'été s'en vient, parce que là, il va porter ses fruits. Hein. Mais de la même manière, quand vous verrez ces choses, tous les petits points rouges que j'ai mis sur la ligne du temps, quand vous verrez ces choses-là, dites-vous que le retour de Jésus-Christ est proche. Au verset 34, « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par l'excès du manger et du boire. » Tu sais, quand on vient de finir de manger et on se sent lourd, on a juste le goût d'aller dormir. Bien, les chrétiens, le danger des apôtres, mais aussi de ceux qui seront durant la période de la grande tribulation, c'est d'être tellement envahi de cette pression qu'il y a sur les croyants. C'est comme on... Tu sais, même ça, en l'an 70, juste un petit peu avant, les chrétiens, ils se faisaient enlever leur maison. Dans le livre d'Hébreux, c'est écrit, il y en a parmi vous qui ont perdu leur maison. Là. Les gens devaient quitter leur travail, devaient quitter leur famille, devaient quitter et sortir de Jérusalem parce qu'il y avait un avertissement sur cette ville-là. Puis, je veux dire, ça coûtait tout, là. Puis, il y en a qui s'endormaient. Puis, le livre des Hébreux, il vient shaker un peu les chrétiens. Puis, il vient leur dire, « Hey, endors-toi pas, lève-toi, toi qui dors. » Il vient réveiller en disant, tu t'en sortiras pas si tu t'endors. Tu vas avoir un châtiment. Puis ce qui est arrivé, c'est que ceux qui se sont endormis puis ont dit, « Gars, moi, je ne veux pas me faire persécuter. Je vais plus être chrétien. Je vais retourner au temple, m'en faire semblant de rien. Puis après ça, je vais revenir. » Bien, ils sont restés à Jérusalem au lieu de se pousser. Et quand les Romains ont débarqué, bien, ils ont passé dans le jugement. Donc, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par l'excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. C'est comme, « Oh, c'est dur d'être chrétien, puis juste comme s'endormir, puis de vivre un peu plus comme dans le monde, comme le monde. »
et que ce jour vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous les habitants de la face de la terre. » Ici, il parle d'une comparaison de pêcheurs. Il parle à des pêcheurs, de toute façon. André, Pierre, c'est des pêcheurs, ça. Un filet qui vient, le poisson se promenait, lui-là, il était en liberté, comme ça, puis là, tout, là, il est appelé comme dans le filet, là. Et là, le Créateur nous reprend dans son filet, puis il nous amène avec lui, il nous amène devant lui. Hein? « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Tournez maintenant dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24. Le filet ici va être présenté d'une autre manière par Jésus dans Matthieu 24. Donc, il y a cette idée de persévérer au travers d'une période bien précise qui est la grande tribulation, puis de se rendre jusqu'à la fin, puis passer vivant, sans mourir, passer directement vivant dans le royaume millénaire de Jésus. Mais il y a aussi cet avertissement, tu me posais la question, ce serait quoi les signes que, dans le fond, les pierres vont être virées, tout ça? Puis Jésus rappelle directement au cœur de chacun de ceux qui lui ont posé la question, bien, sais-tu quoi? Sois prêt tout le temps. Puis sois la tête haute, sois pas courbé, puis sois en train d'attendre, là. Sois pas en train de dormir là, avec le reste du monde. Prépare-toi pour la deuxième venue de Jésus. C'est un peu ça que Jésus vient éveiller par la question, quand est-ce que les pierres vont être... Autrement dit, ce n'est pas juste un sujet d'actualité. Ah ouais, quand est-ce qu'on va savoir dans l'actualité que les pierres vont être renversées? Non. Toi, vas-tu être prêt quand Jésus va revenir? Donc, on va dans Marc. Puis Marc, on va lire du verset 1 au verset 8. Moi aussi, je vais y aller. Marc. Je vous ai-tu dit de tourner dans Matthieu? Tournez dans Marc. Marc 13. Jésus sortit du temple et un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction! » Et ils ne sont pas dans le même navire que Jésus. Là. Jésus, lui, s'en va se faire crucifier dans pas long. Là. Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, et ce ne sera que le commencement des douleurs. » Donc, ce sera qu'un commencement. Ce sera qu'un commencement. Donc, quand vous voyez le tremblement de terre et guerre internationale, tout ça, ça ne sera qu'un commencement. Marc aussi va parler de ce qui se passe avant, d'abord. On lit ensuite qu'est-ce que les autres vont vivre. Verset 9, « Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs. » Et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée dans toutes les nations. Et déjà, quand les apôtres parlent, ils disent que la parole s'est répandue déjà dans le monde entier. Déjà dans le livre des Actes, on voit des témoignages que la parole s'est répandue dans le monde entier. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Un frère livrera son frère à la mort, un père son enfant. Et là, on commence à voir au verset 12 que ces événements-là ont tendance à se rapprocher de la grande tribulation. Vous allez voir à cause du verset 14 que je dis ça. Un frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Là, au verset 13, c'est le verset qui nous intéresse. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le verset 14 nous indique, « Lorsque vous verrez
l'abomination de la désolation établie où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Donc, il y a un homme qu'on appelle l'anti ou l'antéchrist, je le dis. Anté? Anté. Je dis anti parce que c'est souvent en anglais que je le lis. Donc, l'antéchrist va s'asseoir dans le temple et va se proclamer lui-même Dieu. Donc, s'il y avait quelque chose ici, c'est si Jérusalem est environnée d'une armée, poussez-vous. Là, ceux qui vont être à Jérusalem durant cette période-là ici, okay, de la grande tribulation, quand il y a un homme qui va se proclamer lui-même Dieu puis il va s'asseoir dans le temple à Jérusalem, et là, il y a des avertissements qui sont donnés. Donc, les versets 12 qui disaient qu'un père, un frère, une sœur vont se livrer puis ils vont se faire mettre à mort, semblent se rapprocher de la grande période de 7 ans de grande tribulation. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Ici, là, c'est les moyens qui sont donnés à ces gens-là qui vont lire durant cette période-là pour survivre s'ils restent dans ce coin-là. OK? Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là, parce qu'ils fuient dans les montagnes. Ils ont à peine de subsistance pour eux-mêmes, encore moins pour l'enfant qu'ils allaitent. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que ces choses-là n'arrivent pas en hiver. Car la détresse dans ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé, et jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Donc, ici, puis je pense qu'il dit à quelque part, je ne sais pas si c'est dans Marc, il dit « Priez que ce ne soit pas un jour de sabbat, parce que le jour de sabbat, tous les transports en commun sont arrêtés en Israël. » Donc, si tu veux te pousser, ça ne va pas aller vite, vite, vite. Okay. Versets 26 et 27. « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges. » Et il rassemblera les élus des quatre vents et de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, je ne pouvais pas vraiment faire des flèches qui arrivaient des côtés, mais on va voir Jésus-Christ mettre son pied sur la même montagne qu'il a prêché, la montagne des Oliviers. Il va venir régner sur la terre. Ici, lorsqu'il est venu, il n'a pas touché à la terre. Il est venu chercher l'Église, il les a pris avec lui, il est retourné dans les nuées. Ici, 7 ans plus tard, il descend avec l'Église. Okay. Et là, il descend et il met son pied sur Jérusalem et il envoie ses anges chercher tout aux extrémités de la terre. C'est intéressant, le texte dit qu'il envoie ses anges chercher ses élus aux extrémités de la terre. Tous ceux qui vont persévérer ici jusqu'à la fin, okay, qui vont s'être rendus jusqu'à la fin, parce qu'il y en a beaucoup qui vont mourir martyrs puis qui ne se rendront pas jusqu'à la fin. Okay. Il va aller chercher aux cieux, ceux-là. Okay. Mais ici, il va aller chercher sur la terre les anges des 80, ils vont aller les chercher sur la terre et les ramener. Et il va avoir l'Église qui est là, et il va ressusciter dans des cieux aussi. Il va aller chercher ceux qui sont dans les cieux, c'est-à-dire tous les croyants de l'Ancien Testament, et il va les ramener ici. Donc, tous ceux qui sont sur la terre, plus ceux qui sont morts, qui sont dans les cieux, qui sont morts dans l'Ancien Testament aussi, et il les ressuscite avec lui ici. Et donc, que tu sois un croyant qui était avant Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, que tu sois un croyant de l'Église, ou que tu sois un croyant qui a réussi à persévérer, puis que toi, ta vie n'a pas été prise, tu as été sauvé, ou ta vie a été épargnée, si on peut dire. Tu es rassemblé par les anges pour arriver à cet endroit-là, qui est le commencement du règne de Jésus-Christ sur la terre. OK? La conclusion de Marc, on la voit, il dit « Priez que ces choses-là n'arrivent pas en hiver », on l'a vu ça. Regardez ici, verset 32, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils dans son humiliation ou dans son abaissement. » Jésus-Christ s'est privé de connaître les temps. Et donc, il a dit « Ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde et veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Donc, c'est toujours par rapport à « c'est quand la fin? » On ne le sait pas. On ne le sait pas. Et là, il parle de l'histoire d'un homme qui part en voyage, puis il dit qu'il s'en rend d'un homme qui partait en voyage, laissait sa maison, remit l'autorité à ses serviteurs, leur indique à chacun leur tâche et ordonne aux portiers de veiller. Et il leur dit « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Donc, dans cette conclusion-là, Jésus attise la surveillance chez le croyant. Et c'est pour ça que le titre de mon message, je pense, c'est une saine, c'est quoi? Surveillance ou quelque chose comme ça. Elle essaie de parler au travers de la vitre, je ne sais pas. Saine vigilance, c'est ça? Une saine vigilance. OK, on s'en va avec Matthieu pour voir si ça fait du sens, tout ça. Donc, Matthieu, lui, on va lire du verset 4 au verset 8. Matthieu 24. Verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Voyez-vous, le schéma est semblable. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura dans divers lieux des famines et des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Qu'est-ce qu'on voit ici? On va voir que c'est à partir des signes qui nous disent qu'on n'est pas loin des commencements de la fin, que j'ai mis sur mon plan à 1914, la Première Guerre mondiale. On va voir le verset, on va continuer à aller, on va lire au verset 9, puis regardez bien au verset 12 qu'est-ce qui se passe. « Alors, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et là, regardez notre verset qui nous concerne ici. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Mais juste un petit peu avant. OK, c'est ça. Le verset 8 disait « Ce ne sera que le commencement des douleurs. » Et là, Jésus décrit qu'est-ce qui va se passer, ce qu'on vient de lire. Donc, le passage ne dit pas « Si tu persévères jusqu'à la fin de ta vie. » Si on voudrait faire une application à notre propre personne, il faudrait d'abord, avant, savoir qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « celui qui persévérera jusqu'à la fin ». Quand on regarde tout le contexte, c'est la fin de Jérusalem, c'est la fin ici. Dans les trois passages, il met vraiment l'emphase, il nous amène tout ici, la fin des nations, la fin du règne des nations, le début du règne de Christ. Donc, la fin ici, c'est ici-là. OK? Donc, ce n'est pas la fin de notre vie. Okay. Mais c'est la grande tribulation, c'est la fin de la grande tribulation et de son règne. Et là, regardez au verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. On est encore dans le même schéma que les autres passages qui nous parlent. Quand tu vas voir un homme, nous, on ne le verra pas. On ne le verra pas, mais ceux qui vont avoir les Écritures, eux vont le voir. Ils vont entendre parler d'un homme qui s'est proclamé Dieu, qui s'est assis là. Okay. Et on va lire jusqu'au verset 21. Donc, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau, malheur aux femmes qui seront enceintes, etc. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. » Et regardez encore le terme ici, verset 31. « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des quatre vents d'une extrémité de la terre à l'autre. » Il ne dit pas d'une extrémité des... D'abord, il dit d'une extrémité des cieux à l'autre et dans l'autre passage, il dit d'une extrémité de la terre à l'autre. Intéressant. Donc, Jésus-Christ rassemble tous ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin, qui ont réussi à se rendre jusqu'à la fin. Il rassemble ceux qui sont morts durant cette période-là. Il ressuscite les morts qui étaient avant. Et puis, il vient les amener avec lui dans son royaume. La conclusion de Matthieu, il y a quatre choses. Ici, j'en vois trois, mais j'en ai rajouté un autre parce que je suis allé revoir durant les louanges. Il fait l'illustration du figuier. Si vous voyez que le figuier commence à avoir des fruits, l'été est proche. Quand vous voyez ces choses-là commencer à arriver, Jésus-Christ n'est pas loin de revenir. Il fait la comparaison avec Noé. Et là, sa comparaison ici est plus grande qu'un maître avec ses serviteurs. Mais il dit, du temps de Noé, les gens se mariaient, mangeaient, faisaient la fête et ne se doutèrent pas que le déluge vint puis qu'il les a emportés. Bien, de la même façon, dans les derniers temps, dans la dernière génération, dans les temps de la fin, quand tout ça va arriver, les gens vont se marier, ils vont manger, ils vont vivre, puis ils vont être comme un poisson qui s'est fait prendre par un filet. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ça, mais là, ils vont devoir faire face au Créateur. OK? Et donc ici, là, c'est plus juste vous persévérez, puis vous êtes des croyants, mais c'est aussi tout le monde, puis ils embarquent dans le déluge, puis ils disent c'est la même affaire qu'au temps du déluge. Et là, il dit, là, Jésus va revenir. Là, c'est là qu'il fait la comparaison d'un voleur. Si tu savais à quelle heure que le voleur viendrait, ben tu ne dormirais pas, tu l'attendrais. Hein? Ben c'est la même affaire. Jésus va revenir comme ça, puis il encourage. Là, c'est comme tout le monde. N'importe quel lecteur qui lirait ce passage-là, qui n'est même pas sauvé, bien, qui ne dorme pas comme le reste du monde, puis qui accepte le Seigneur comme son sauveur aussi pour se préparer à son deuxième retour. Puis là, il parle d'un homme qui laisse sa maison à un intendant. Puis là, il dit, il y en a un, il dit, heureux le serviteur, que quand le maître revient, il le trouve servant et veillant. Donc, il n'est pas endormi. Mais il dit, il y a un serviteur qui a commencé à dire que le maître ne viendrait pas ou qui tardait à venir, puis il a commencé à battre ses collègues. Ses co-serviteurs. Puis le maître, qu'est-ce qu'il va faire quand il va revenir? Bien, il va le tailler en pièces, puis il va le mettre avec les hypocrites. Donc, on voit vraiment ici que c'est une perdition. La personne est perdue. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui paraît être ce qu'il n'est pas. Et dans le passage, celui qui est placé avec les hypocrites, c'est celui qui paraissait peut-être être un croyant, mais qui ne l'était pas, ne l'avait jamais été non plus. Et donc, la conclusion de Matthieu, c'est ça. Tout ça, ce qu'on a dit aujourd'hui, pour comprendre que les trois passages qui nous disent que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, la fin d'abord est une réponse à quand ces choses-là vont s'accomplir et non la fin de ma vie. Donc, ce n'est pas si je persévère jusqu'à la fin de ma vie que je vais être sauvé, avoir la vie éternelle. En passant, Paul dit à Timothée, il lui dit, de prêcher puis de surveiller son enseignement pour sauver son âme puis sauver ceux qui l'écoutent. Timothée était un pasteur, il était sauvé. Le mot sauver son âme, là, ça veut dire délivrer, rendre saint. Le mot sauver ne veut pas toujours dire sauver pour la vie éternelle. Ça peut vouloir dire être préservé, délivré, rendu saint. Okay? Donc, la fin était la réponse à quand ces choses-là vont s'accomplir. Et c'est pour ça que Jésus parle beaucoup de la grande tribulation. Prochain clic. Il y aura des temps difficiles pour tous les croyants durant la période de l'Église, mais spécialement pendant la période de la grande tribulation. Et ceux qui vont persévérer et qui vont se rendre jusqu'à la fin vont avoir la vie sauve et entrer dans le millénium. Ils ne vont pas avoir la vie éternelle parce qu'eux autres, ils ont réussi à ne pas se faire martyriser. Beaucoup, beaucoup de chrétiens vont se faire martyriser et ne vont pas bénéficier de cette promesse-là. Ils ne se rendront pas jusqu'à la fin. ils vont être pourchassés, mis à mort, là. Ils vont être trahis par leur propre famille. Fait que cette promesse-là ne s'accomplit pas pour eux nécessairement, mais ceux qui vont se rendre jusqu'à la fin de la tribulation vont rentrer vivants dans le millénium, tout simplement. Puis ces martyrs-là, on les voit dans l'Apocalypse, sont sous l'autel, puis ils intercèdent, puis ils disent, « Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu? Quand est-ce que tu vas arrêter tout ça? Là? C'est un carnage sur la terre. Quand est-ce que tu vas arrêter ça? » Ils intercèdent, sont sauvés, sont avec Dieu, et ils intercèdent pour ceux qui sont encore sur la terre, pour que cette période-là soit abrégée. Hein? Parce que sinon, il n'y en aurait pas un qui sortirait vivant de là. C'est un peu ce que le passage disait aussi tantôt. Les disciples sont morts avant d'arriver à la fin du monde. Et ils sont morts martyrs, ils n'ont pas nécessairement échappé. Fait que quand Jésus disait « les cheveux de votre tête, là, ils ne seront pas sauvés », il n'y en a pas un qui va tomber, mais il y en a qui ont tombé. T'sais. Et ça parlait vraiment de cette période-là. En tout cas, je continue parce que j'ai une pointe d'interrogation sur une chose que j'ai dite. Je ne suis pas capable de la développer plus. Fait que je vais... Puis la vision de la fin devrait nous pousser à veiller et prier pour être trouvés debout quand Jésus va revenir et non en train de dormir. On revient à notre équation du départ. La fin aurait pu arriver du vivant des apôtres comme de notre espace vivant. Donc, de la même façon que quand André a posé la question, la fin du monde aurait pu arriver durant sa vie, ben, nous, la fin du monde peut arriver direct là. Donc, on a vu que celui qui persévérera et qui finira, qui se rendra jusqu'à la fin, va être sauvé. Il va passer ici, puis il va rentrer dans le royaume directement. Puis, notre première équation reste toujours vraie, c'est-à-dire celui qui écoute les paroles de Christ et qui croit aux paroles, ça implique nécessairement qu'il a la vie éternelle et qu'il ne viendra pas en jugement. Et ça concerne toute la période de l'Église. Je finis avec une petite lecture. C'est dans la lettre de Pierre. Pour vos notes personnelles, c'est dans 2 Pierre 3:1. Je vous le lis comme ça, puis on va conclure avec ça. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche, irrépréhensibles, dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé Paul l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des choses difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme les autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Donc, le passage aujourd'hui, Jésus ne répond pas seulement à l'actualité de quand est-ce que ces pierres-là vont être renversées, mais il nous met en veille. Il nous encourage à veiller et à être prêts pour son retour. Amen. Justement, en parlant de son retour, on prend le repas du Seigneur comme une action prophétique, que quand on prend le repas du Seigneur, on annonce sa venue. On annonce qu'il va revenir. Bien sûr, on annonce qu'il est déjà venu, puis qu'est-ce qu'il a fait à la croix. Mais Jésus, c'est Paul dans 1 Corinthiens 11 qui dit, « À chaque fois que vous prenez le pain et le vin, vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. » Et donc, si quelqu'un parmi nous ne comprendrait pas le sacrifice de la croix, c'est une autre manière de l'évangéliser. On annonce sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. On annonce qu'il est mort jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est un rappel qu'on va le prendre avec lui. Donc, ce qu'on va faire, on va courber les têtes ensemble, fermer les yeux. Puis, avec ce qu'on a entendu ce matin, nourri de la parole de Dieu, on va prier. On va prier le Seigneur pour le remercier pour sa première venue. Puis, on va le remercier pour ce qu'on comprend de l'Évangile. Puis, après ça, on va passer les éléments puis on va faire un chant.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.